Deuxième partie, biographie. Introduction. Aussitôt que j'appris la fin soudaine et imprévue de Sophie Kovalevski, je sentis qu'il était de mon devoir de continuer sous une forme quelconque les souvenirs d'enfance qu'elle avait publiés en suédois sous le titre des sœurs Rajewski. C'était un devoir pour bien des raisons, mais principalement parce que Sophie, persuadée qu'elle mourrait jeune et que je lui survivrais, m'avait maintes fois fait promettre d'écrire sa biographie. Habituée à s'analyser, à se scruter, elle soumettait chacune de ses actions, de ses pensées ou de ses impressions à sa propre critique. Et pendant les 3 ou 4 années de notre intimité presque quotidienne, c'est devant moi qu'elle cherchait à classer les moindres variations de son humeur mobile dans tel ou tel système psychologique. Il lui arrivait parfois de dénaturer la réalité par cette critique exagérée. Car tout en s'analysant avec une sévérité qui touchait à la cruauté, elle ne gardait pas moins le besoin de s'idéaliser, de se considérer avec les qualités qu'elle aurait souhaité posséder. Aussi l'image qu'elle se faisait d'elle-même paraissait-elle fort différente à d'autres. Souvent trop sévère, elle était aussi plus indulgente pour elle-même que son entourage. Son autobiographie, si elle avait pu réaliser le projet de continuer ses souvenirs d'enfance, aurait certainement reproduit l'image qu'elle me dépeignait pendant nos longues causeries psychologiques. Malheureusement, cette œuvre, qui eût été une des autobiographies les plus remarquables de la littérature du monde, ne fut pas achevée, et puisque c'est à moi que revient le devoir d'esquisser les traits extérieurs de l'histoire de cette âme, sur laquelle Sophie nous aurait donné des aperçus si profonds, j'ai compris que le seul moyen de remplir ma tâche était d'écrire en quelque sorte sous sa suggestion. J'ai voulu m'identifier à elle, devenir encore une fois son autre moi, comme elle disait jadis, la décrire enfin, autant que je l'ai pu, telle qu'elle se décrivait à moi. J'ai laissé plus d'une année s'écouler avant de me décider à publier ses souvenirs. J'ai employé ce temps à me mettre en relation, par correspondance ou conversation, avec les amis que Sophie avait en différents pays, cherchant ainsi à rendre mes souvenirs plus précis sur les faits dont elle m'avait si souvent entretenu. Je citerai les correspondances autant qu'elles me sembleront propres à jeter une lumière vraie sur son caractère, vraie à mon point de vue du moins, c'est-à-dire conforme à ses propres interprétations. Ce n'est pas, comme on le voit, la vérité objective que je cherche dans l'histoire de Sophie. Que signifie d'ailleurs la vérité objective lorsqu'il s'agit d'expliquer une âme? On pourra récuser la justesse de mes appréciations et de mes jugements, on pourra interpréter les sentiments ou les actes de Sophie d'une manière différente de la mienne. Selon moi, il importe peu. Les dates que je donne sont aussi exactement contrôlées qu'il m'a été possible de le faire. Sous ce rapport seul, j'ai évité la suggestion de Sophie, trop fantaisiste en pareille matière. L'été passé, je rencontrais Henri Ibsen à Christiania et lui parlais de mon intention d'écrire la biographie de Sophie Kovalevski. « Est-ce bien sa biographie que vous comptez écrire? N'est-ce pas plutôt un roman sur elle ?»« Oui, répondis-je, si vous entendez par là, son roman fait par elle-même, mais tel que je le conçois, avec mon point de vue particulier sur elle. « Vous avez raison, dit-il, c'est en romancier ou en poète qu'il faut aborder cette œuvre. » Cette observation me confirma dans ma façon de comprendre ma tâche. Que d'autres la décrivent objectivement, s'ils le peuvent. Pour moi, je ne prétends qu'à une description subjective d'un état d'âme éminemment subjectif. Anna Charlotte Leffler, duchesse de Cajanello. 1. Rêve de jeune fille, mariage simulé. Sophie avait environ 17 ans lorsque sa famille vint passer un hiver à Pétersbourg. Une vive agitation régnait à cette époque en Russie parmi la jeunesse intelligente, spécialement parmi les jeunes filles. Cette agitation avait pour but la liberté de la Russie et son développement intellectuel. Il ne s'agissait pas de nihilisme, à peine de politique, mais la soif de s'instruire s'emparait de cette jeunesse avec une telle violence que des centaines de jeunes filles, appartenant aux meilleures familles, s'expatriaient pour aller étudier dans des universités étrangères. Les parents s'opposant en général à ses aspirations, la jeune fille avait recours à une tactique originale, bien caractéristique de cette époque. Pour échapper à la tutelle de leur famille, elle contractait des mariages fictifs avec des jeunes gens qui partageaient leurs idées. Bien des étudiantes de Zurich, rappelées ensuite par oukase impériale sous l'inculpation de nihilisme et qui en réalité n'avaient fait que poursuivre paisiblement leurs études, s'étaient mariées dans ces conditions et, après avoir quitté ainsi la maison paternelle et s'être installées à l'université, s'étaient séparées de leur libérateur, chacun des époux, d'un commun accord, gardant sa liberté. Ces unions, à cause de leur but élevé, devinrent très populaires parmi les amis de Sophie et de sa sœur, et leur semblèrent infiniment supérieures aux vulgaires mariages d'inclination qui ne recherchent que l'amour, c'est-à-dire une satisfaction égoïste. Pour cette jeunesse éprise d'idéal, le bonheur personnel devenait secondaire. Seul le dévouement à une cause impersonnelle paraissait noble et grand. Étudier, développer son intelligence, contribuer à soutenir dans sa pénible lutte contre l'obscurantisme cette patrie aimée avec exaltation, l'aider à conquérir la lumière et la liberté, telle était la tâche que se proposaient ces filles d'anciennes familles aristocratiques qu'on ne songeait à élever que pour en faire des femmes du monde. Les parents contrarièrent naturellement l'esprit d'indépendance et de révolte qu'ils sentaient percer au travers de la réserve énigmatique de leurs enfants. Leur opposition fut hostile, souvent même inintelligente. « Ah, l'heureux temps !» disait parfois Sophie en parlant de cette période de sa vie. Dominés par les idées nouvelles, nous étions persuadés que les conditions sociales existantes ne pouvaient durer. L'ère glorieuse d'affranchissement, de civilisation universelle, notre rêve à toutes, semblait si proche, si certaine. Et parmi nous, quelle communauté de sentiments ! Lorsque nous étions réunis, à 3 ou 4, dans un salon avec des personnes plus âgées, en présence desquelles nous n'osions élever la voix, il suffisait d'un mot, d'un regard, d'un geste, pour reconnaître qu'il y avait des amis près de nous. Quelle joie dans cette découverte ! Quel mystérieux bonheur, auquel les autres ne comprenaient rien, que de sentir auprès de soi un jeune homme ou une jeune fille à peine entrevue, avec lesquels on n'échangeait que des paroles insignifiantes, et les savoir cependant animés d'espérance et d'idées communes, enflammés du même dévouement pour la même cause. La petite Sonia n'attirait encore l'attention de personne dans le petit groupe d'amis qui se serrait de plus en plus autour d'Aniuta, son aînée de 6 ans. C'était encore une enfant. Elle accompagnait Aniuta parce que celle-ci aimait et protégeait cette petite fille modeste, aux yeux verts et limpides, comme des groseilles vertes dans du sirop. Dont le regard s'illuminait de joie à chaque parole chaude ou enthousiaste, et qui s'effaçait d'ailleurs dans l'ombre de sa brillante sœur, dont elle reconnaissait la supériorité sous tous les rapports, beauté, charme, talent, intelligence. Cette admiration n'excluait pas toutefois une certaine envie, c'est-à-dire un vif désir d'égaler l'objet de son admiration jalouse sans jamais chercher à le rabaisser. Sophie avoue ce sentiment dans ses souvenirs d'enfance, et le conserva toute sa vie. Disposée à exagérer chez les autres les qualités qu'elle aurait souhaité posséder elle-même, et à se désoler d'en être privée, la grâce et la beauté la subjuguèrent toujours. Aussi rêvait-elle d'éclipser sa sœur sur un terrain où sa propre infériorité lui fut moins sensible. Dès ses plus jeunes années, on avait admiré son goût naturel pour l'étude, sa vive intelligence et une soif d'instruction que l'amour-propre, joint aux encouragements de son professeur de mathématiques, vint maintenant fortifier. Sa rapide et puissante faculté d'assimilation, la richesse de ses idées primesautières, rendaient sa vocation scientifique indiscutable. Mais son père, qui n'avait consenti à des études aussi inusitées pour une jeune fille que sous l'influence d'un ami de jeunesse très frappé des dispositions de l'enfant, recula épouvanté lorsqu'il soupçonna sa fille de vouloir prendre ses études au sérieux. Une allusion timide de Sophie au sujet d'une université étrangère fut aussi mal accueillie que la découverte des travaux littéraires d'Aniuta, c'est-à-dire comme une coupable tentative d'émancipation. Aux yeux du général, les filles de bonne maison qui réalisaient de semblables projets n'étaient que des aventurières destinés à faire le souci et la honte de leur famille. Ainsi, dans ce milieu aristocratique, se côtoyaient deux tendances contraires. L'une cachée, dissimulée, mais rebelle à toute soumission, cherchant sa voie, comme une force élémentaire, en dépit des obstacles qui l'arrêtaient. L'autre, sincère, honnête, imbue de ses droits au despotisme paternel, prétendant contenir cette force inconnue et folle, la régler et, au besoin, la châtier. Agnota et une de ses amies, possédées comme elle du besoin d'étudier que contrariait aussi sa famille, prirent alors la résolution suivante. L'une d'elles, n'importe laquelle, tenterait de contracter un des mariages platoniques en vogue qui servirait à les affranchir toutes deux. Car elle ne doutait pas que si l'une se mariait, l'autre n'obtint de ses parents la permission d'accompagner son amie à l'étranger. Le voyage perdrait ainsi son caractère odieux de voyage d'études pour prendre celui d'une partie de plaisir, et elles emmèneraient la petite Sonia, l'ombre inséparable d'Agnota, une des sœurs ne pouvant voyager sans l'autre. Le plan une fois conçu, il ne s'agissait plus que de trouver l'homme qui les aiderait à l'exécuter. Agnota et son amie Inès cherchèrent autour d'elle et leur choix tomba sur un jeune professeur de l'université qu'elle connaissait à peine, mais dont la loyauté et le dévouement à la cause commune ne leur laissaient aucun doute. Et un beau jour, les trois jeunes filles, Sonia comme toujours formant l'arrière-garde, se rendirent chez le professeur. Celui-ci était à sa table de travail lorsque le domestique introduisit les trois demoiselles, dont la visite surprit d'autant plus le jeune homme qu'il n'avait avec elle aucune relation de société. Il se leva poliment, les pria de prendre place sur un grand divan où toutes les trois s'assirent côte à côte. Un moment de silence embarrassé suivit ce début. Le professeur, assis en face d'elle, dans un fauteuil à bascule, les examinait l'une après l'autre. Agnota, grande, svelte, blonde, une grâce souple distinguant chacun de ses mouvements, ses grands yeux brillants, d'un bleu foncé fixé sur lui sans timidité, mais avec une certaine hésitation. Inès, brune, forte, aux traits accentués, au regard profond et un peu dur, enfin la petite Sonia, toute fluette et menue, avec sa tête bouclée, ses traits réguliers et purs, son front d'enfant innocent et ses yeux étranges, chercheurs, passionnément interrogateurs. Agnota prit enfin la parole, ainsi qu'il avait été préalablement convenu entre elles, et sans la moindre trace de confusion, posa au professeur la question suivante. Serait-il disposé à les affranchir par un mariage avec l'une d'entre elles pour les conduire ensuite à une université suisse ou allemande et les y laisser? Dans un autre pays et d'autres circonstances, un jeune homme eût été fort en peine de répondre à une question semblable, posée par une belle jeune fille, sans y mêler un peu de galanterie, ou tout au moins une légère pointe d'ironie. Mais celui-ci était à la hauteur de la situation. Agnota avait bien choisi sous ce rapport. Il répondit froidement et sérieusement qu'il n'éprouvait pas le moindre désir d'accepter une proposition de ce genre. Et les jeunes filles? On croit peut-être que ce refus les humilia? Nullement. Leur vanité féminine n'était pas en jeu. Jamais l'idée de plaire à ce jeune homme ne leur était venue. Elles reçurent ce refus aussi tranquillement qu'un homme, offrant à un autre de lui servir de compagnon de voyage, verrait décliner son offre. Toutes trois se levèrent pour partir, reconduites par le professeur, qui échangea à la porte des poignées de main avec elles. Pendant bien des années, elles ne le revirent plus, et jamais elles n'eurent la moindre crainte de le voir abuser de leur confiance. Il appartenait à la Sainte Ligue qui tenait, serrée comme dans un anneau, les cœurs battant pour la même cause, cela suffisait. 15 ans plus tard, Madame Kovalevski, alors à l'apogée de sa célébrité, rencontra dans le monde, à Pétersbourg, l'homme qu'elle était venue demander en mariage. Ils causèrent en plaisantant de cet insuccès. Vers cette époque, une amie d'Agnota commit la bassesse de se marier par inclination. Combien on la plaignit et on la méprisa. Le cœur de Sonia surtout se gonflait d'indignation à l'idée d'une aussi misérable désertion de tout idéal. La jeune mariée elle-même, honteuse de cette action comme d'une chute, n'osait parler à ses amis de son bonheur conjugal, et elle défendit à son mari de lui donner le moindre signe de tendresse en leur présence. Mais un événement imprévu se produisit dans la vie de Sophie. Agnota et Inès, qui tenaient à leur plan sans se laisser décourager par un premier échec, avaient choisi un autre libérateur. C'était un simple étudiant, mais d'une intelligence remarquable et dont le désir était aussi de continuer ses études en Allemagne. Il appartenait à une bonne famille, chacun lui prédisait un bel avenir. On pouvait donc espérer que les parents d'Agnota et d'Inès ne feraient aucune objection à un semblable parti. Cette fois, la proposition se fit plus simplement. Agnota, ayant rencontré le jeune homme chez des amis communs, profita de l'occasion pour lui parler de son projet dans le courant de la conversation. La réponse fut inattendue. Il acceptait, mais avec un léger changement au programme, c'était Sophie qu'il voulait épouser. Les trois conjurés se trouvèrent dans un grand embarras. Le père consentirait-il jamais à se séparer de cet enfant quand Agnota, déjà âgée de 23 ans, n'était pas mariée? Un parti sortable eût sans nul doute été accepté pour celle-ci, car la nature fantasque et peu équilibrée de sa fille aînée donnait du souci au général. Et d'ailleurs, elle était d'âge à se marier. Kovalevski pouvait donc être agréé, malgré sa jeunesse, mais pas pour Sonia. La proposition fut effectivement rejetée sans appel par le général, et le départ pour Palibino aussitôt décidé. Que restait-il à faire? Retourner à Palibino, s'arracher aux espérances, aux intérêts dont la vie des jeunes filles s'était animée? Autant valait pour elle la prison, moins le sentiment de souffrir pour une grande cause qui eût rendu toute captivité réelle plus supportable que l'exil prosaïque dont elles étaient menacées. La timide Sonia prit alors un parti audacieux. Cet enfant sensible à l'excès, qu'un regard sévère, un son de voix mécontent rendait malheureuse, se montra à cette heure critique inflexible comme une lame d'acier. Il y avait dans cette nature impressionnable, tendre et affectueuse, un fond de dureté, d'implacabilité, qui se révélait dans les moments décisifs. Elle s'attachait avec dévouement, comme un caniche, à ceux dont elle recevait de simples marques d'amitié. Mais elle pouvait aussi blesser de sang-froid ceux qu'elle venait de traiter avec tendresse et fouler aux pieds tout sentiment d'affection lorsque l'esprit de lutte s'éveillait en elle. Sa volonté prenait alors une intensité passionnée et s'exprimait avec une violence dévorante, douloureuse, alors même que son cœur n'était pas en cause. Ce qu'elle voulait cette fois, c'était quitter à tout prix la maison paternelle et s'en aller étudier à l'étranger. Une réunion de famille devait avoir lieu chez ses parents. Sa mère sortit dans l'après-midi pour acheter des fleurs et de la musique nouvelle. Le général se rendit à son cercle et la gouvernante aida les femmes de chambre à décorer de plantes le salon. Les jeunes filles restèrent seules dans leur chambre où leur toilette pour le dîner était déjà étalée. Jamais elles ne quittaient la maison sans être accompagnées d'un domestique ou d'une gouvernante. Mais en voyant tout le monde occupé, Sophie profita de la circonstance pour se glisser seule hors de l'appartement. Agnota, sa complice, la conduisit jusqu'à l'escalier et fit bonne garde à la porte jusqu'à ce que sa sœur fût hors de vue. Elle rentra ensuite dans sa chambre, le cœur battant, pour mettre la robe bleue de ciel qui lui avait été préparée pour le dîner. Le jour tombait. Quelques réverbères s'allumaient peu à peu. Sonia, le voile baissé, son bachelet attaché jusqu'au menton, marchait d'un pas timide le long des rues, presque désertes à cette heure, où jamais elle ne s'était trouvée seule. Son cœur battait de l'émotion fébrile qui accompagne toute entreprise hardie et leur donne tant d'attrait dans la jeunesse. Il lui semblait être une héroïne de roman, elle, la petite Sonia, et il ne s'agissait pas d'un banal roman d'amour, comme ceux qu'elle méprisait tant et dont la littérature est pleine. De son petit pas saccadé, rapide et rythmé, elle volait à un rendez-vous qui n'avait rien d'amoureux. Et lorsqu'elle monta haletante l'escalier sombre d'une maison sordide, située dans une ruelle écartée, sa terreur folle et enfantine de l'obscurité n'était guère sentimentale. Elle frappa trois petits coups nerveux et précipités à une porte qui s'ouvrit aussitôt. Sonia était évidemment attendue, et Kovalevski l'introduisit dans une modeste chambre d'étudiant où les livres s'entassaient sur tous les meubles. Un vieux divan semblait avoir été débarrassé uniquement pour faire place à la nouvelle venue. Le jeune homme ne ressemblait pas à un héros de roman. Une épaisse barbe rousse et un énorme nez le faisaient paraître laid au premier abord. Mais le regard de ses yeux bleu foncé, à l'expression intelligente et douce, exerçait vite un grand charme. Son attitude envers la jeune fille, qui venait si singulièrement se confier à lui, fut celle d'un frère aîné. Les deux jeunes gens attendirent, en proie à une vive émotion. Plus d'une fois, Sophie sauta du divan en croyant entendre précipitamment monter quelqu'un. Pendant ce temps, le général et sa femme, rentrés assez tard, n'eurent que le temps de changer de toilette avant le dîner, et ne remarquèrent pas l'absence de leur fille cadette. Ils ne s'en aperçurent que lorsque tout le monde fut réuni dans la salle à manger, au moment de se mettre à table. « Où est Sonia ?» demandèrent-ils tous deux à Aniuta, qui semblait ce jour-là plus imposante et plus sûre d'elle-même que jamais, malgré l'expression nerveuse et agitée de son regard provocateur. « Elle est sortie, » répondit-elle d'une voix étouffée, dont elle cherchait vainement à dominer le tremblement, tout en évitant les yeux de son père. « Sortie ? Que signifie cela ? Avec qui ?»« Seule, mais elle a laissé un billet sur sa toilette. » Un domestique fut aussitôt envoyé à la recherche du billet, et l'on se mit à table dans un silence de mort. Sophie avait calculé son coup plus juste, et certainement avec plus de cruauté qu'elle ne l'imaginait. Avec l'égoïsme impitoyable et inconscient de la jeunesse, elle blessait son père par son défi enfantin à l'endroit sensible, car pour cet homme si fier, rien n'était cruel comme de dévorer en présence de tous l'affront de cette escapade. Le billet ne contenait que ces mots. « Pardonne-moi, papa, je suis chez Voldemar et je te supplie de ne plus t'opposer à notre mariage. » Ivan Vassilievitch lut ces lignes en silence et quitta la table en murmurant quelques paroles d'excuses à ses voisins. 10 minutes après, Sophie et son compagnon d'attente, de plus en plus inquiets, entendirent des pas furieux dans l'escalier. La porte qui n'était pas fermée s'ouvrit violemment et le général parut devant sa fille tremblante. Vers la fin du dîner, le père et la fille, suivis de Voldemar Kovalevski, entrèrent dans la salle à manger. « Permettez-moi de vous présenter le fiancé de ma fille Sophie, » dit Ivan Vassilievitch d'une voix émue. 2. À l'université. C'est à peu près en ces termes que Sophie racontait le prologue dramatique de son étrange mariage. Les parents partenèrent, et bientôt après, en 1868, la cérémonie nuptiale eut lieu à Palibino. Aussitôt après leur mariage, les jeunes mariés firent un voyage à Pétersbourg, où Sophie fut introduite par son mari dans les cercles politiques qu'elle désirait connaître depuis si longtemps. Une amie, qui par la suite devait devenir très intime, décrit ainsi l'effet produit par la jeune femme. Parmi ces femmes et ces jeunes filles politiques, toutes plus ou moins ravagées par la vie, Sonia faisait vraiment une étrange impression avec son aspect juvénile qui lui valut le surnom de « petit moineau ». Elle avait à peine 18 ans et paraissait beaucoup plus jeune. Petite, fluette, le visage tout rond, les cheveux courts et frisés, la physionomie expressive et singulièrement animée, les yeux surtout, passant avec mobilité de l'enjouement à une sérieuse rêverie, elle offrait le mélange d'une naïveté presque enfantine et d'une remarquable profondeur de pensée. Elle séduisit tout le monde par le charme inconscient qui la caractérisait à cette époque. Jeunes et vieux, hommes et femmes, étaient également attirés. Mais elle ne semblait pas remarquer les hommages qui l'entouraient, tant elle était simple et dénuée de coquetterie. Sa toilette ne lui donnait aucun souci. Elle y apportait même une grande négligence qu'elle conserva toujours. La même amie cite à l'appui le petit trait caractéristique suivant. « Je me souviens qu'un jour, bientôt après avoir fait sa connaissance, tandis que nous causions avec animation d'un sujet intéressant pour toutes deux, nous ne pouvions causer d'ailleurs qu'avec animation dans ce temps-là, Sophie s'amusait à défaire lentement la garniture de sa manche gauche, et après l'avoir détachée, elle la jeta à terre comme une chose inutile dont elle était bien aise de se débarrasser. » Après une demi-année passée à Pétersbourg, le jeune couple partit au printemps de 1869 pour Heidelberg, Sophie pour y étudier les mathématiques et son mari la géologie. Après avoir pris leurs inscriptions, ils voyagèrent pendant les vacances d'été et allèrent en Angleterre, où ils firent la connaissance de plusieurs personnalités célèbres, George Eliot, Darwin, Spencer, Huxley, etc. Dans le journal de George Eliot, publié par M. Cross, on trouve la notice suivante datée du 5 octobre 1869. Nous reçûmes dimanche la visite d'un couple russe intéressant, M. et Mme Kovalevski. Elle, une charmante et modeste créature, attrayante de manières et de conversation, étudie les mathématiques à Heidelberg grâce à une permission spéciale obtenue avec l'aide de Kirchhoff. Lui, un homme sympathique et intelligent, spécialement adonné à la géologie, se rend à Vienne, où il compte rester 6 mois, après avoir laissé sa femme à Heidelberg. Ce plan ne se réalisa pas, car Voldemar resta à Heidelberg avec sa femme pendant un semestre. Leur vie, à cette époque, est décrite de la façon suivante par l'ami déjà cité, qui avait obtenu de ses parents, par l'intervention de Sophie, la permission d'étudier avec elle à l'université. Quelques jours après mon arrivée à Heidelberg, en 1869, je vis arriver Sonia avec son mari, revenant d'Angleterre. Elle paraissait heureuse et très satisfaite de son voyage. Rose, fraîche, charmante, comme à notre première rencontre, elle me parut avoir plus d'animation, plus d'énergie encore pour continuer ses études. Ses aspirations sérieuses ne l'empêchaient pas de s'amuser de tout, des choses même les plus insignifiantes. Je me rappelle une promenade que nous fîmes avec son mari dans les environs de Heidelberg, quelques jours après leur arrivée, et où nous nous mîmes à courir sur une route bien unie, comme deux petites filles à qui dépasserait l'autre. Combien ces premiers souvenirs de notre vie d'université ont conservé de fraîcheur pour moi. Sophie me semblait heureuse et d'un bonheur si élevé. Cependant, lorsque plus tard elle parlait de ses années de jeunesse, c'était avec amertume et comme d'années inutilement vécues. Je me rappelais alors ses premiers mois de Heidelberg, nos discussions enthousiastes sur tant de sujets divers, ses poétiques relations avec son jeune mari, qui l'aimait d'un amour si purement idéal. Elle paraissait l'aimer de même. Tous deux semblaient ignorer les bassesses de la passion que les hommes désignent sous le nom d'amour. Sophie n'a donc pas eu lieu de se plaindre. Sa jeunesse a été riche en sentiments et en aspirations nobles, et l'homme qui vivait auprès d'elle l'a aimée d'une passion profonde et contenue. Ce moment fut du reste le seul où je connus Sophie heureuse. Dès l'année suivante, tout était changé. Les cours commencèrent presque aussitôt après notre arrivée. Nous étions occupés tous les trois à l'université pendant la journée, et les soirées même se passaient au travail. Nous n'avions presque jamais le temps de faire une promenade dans le courant de la semaine, mais nous consacrions le dimanche à de longues excursions hors de la ville. Nous allions même au théâtre à Mannheim. Nous fîmes quelques visites aux familles de certains professeurs, sans nouer de relations avec personne. Sophie attira l'attention dès le début. Le célèbre professeur Kirchhoff de Königsberg, dont elle suivit le cours de physique pratique, parlait toujours d'elle comme d'un sujet exceptionnel. Sa renommée se répandit vite dans la petite ville, et on s'arrêtait parfois dans la rue pour regarder passer la célèbre Russe. Elle rentra un jour en riant et me raconta qu'une femme du peuple, un enfant sur les bras, s'était arrêtée devant elle en disant tout haut « Regarde !» Regarde la jeune fille qui travaille si bien à l'école. Réservée, modeste, presque timide, dans ses rapports avec le professeur et avec ses camarades, Sophie n'entrait jamais à l'université qu'en détournant les regards pour ne parler à personne. Elle n'adressait la parole à ses camarades que lorsque son travail l'exigeait. Cette manière d'être plaisait aux professeurs allemands, qui admirent la modestie chez une femme, surtout lorsque celle-ci est jeune, charmante, et qu'elle s'adonne à une science aussi abstraite que les mathématiques. Cette timidité de Sophie était parfaitement naturelle à cette époque. Je me souviens qu'elle me raconta une fois son embarras en découvrant une erreur au tableau dans une démonstration faite par un élève ou par le professeur. Celui-ci s'embrouillait de plus en plus, et Sophie m'avoua que son cœur battait à se rompre lorsqu'elle se décida enfin à se lever pour aller au tableau pour montrer en quoi consistait l'erreur. Notre heureuse vie à trois, si riche d'intérêts de tout genre, car Kovalevski ne bornait pas sa curiosité aux questions d'ordre scientifique, ne devait pas durer. Dès le commencement de l'hiver, nous vîmes arriver la sœur de Sophie et son amie Inès, toutes deux plus âgées que nous de quelques années. Kovalevski, nous voyant un peu à l'étroit dans notre appartement, se décida à nous quitter pour se loger ailleurs. Sophie allait le voir souvent, passait des journées entières chez lui et faisait seule avec lui de longues promenades. Voldemar se sentait mal à l'aise dans la société des autres dames, d'autant plus que les nouvelles venues se montraient souvent peu aimables. Elle trouvait mauvais, le mariage étant fictif, que Kovalevski donna un caractère d'intimité à ses relations avec Sophie. Leur ingérence occasionna des ennuis qui troublèrent les bons rapports de notre petit cercle. Au bout du semestre, Kovalevski prit le parti de quitter Heidelberg pour Jena d'abord, puis pour Munich, où il vécut exclusivement plongé dans ses études. Très doué, très laborieux, modeste dans ses goûts, il n'avait aucun besoin de distraction. Sophie prétendait qu'un livre et un verre de thé suffisaient pour le rendre parfaitement heureux. Au fond, elle en était froissée et devenait jalouse de ses études qui remplaçaient si bien sa société. Nous allâmes voir Kovalevski plusieurs fois. Ils firent ensemble un petit voyage dont Sophie parut enchantée. Mais elle prenait de moins en moins son parti de la séparation et fatiguait son mari par d'incessantes exigences. Elle ne pouvait bouger sans l'obliger à venir la chercher. Il devait faire ses commissions, s'occuper de 1000 bagatelles, et quoiqu'il ait mis la meilleure grâce du monde, ses travaux en souffraient. Mais Sophie ne tenait jamais aucun compte de cela. Plus tard, lorsque Sophie se plaignait à moi de sa vie passée, elle répétait sans cesse avec amertume « Personne ne m'a jamais véritablement aimé. » Je répliquais alors « Mais ton mari t'a beaucoup aimé. » « Il m'aimait quand j'étais là », était sa réponse invariable, mais il pouvait si facilement se passer de moi. L'explication de la réserve de Kovalevski à cette époque me semble naturelle. Mais Sophie ne l'admettait pas. Elle eut de tout temps une certaine prédilection pour les relations tendues et les rapports peu naturels. Elle voulait prendre et ne pas donner, et cette disposition de son caractère est en grande partie la véritable cause du drame de sa vie. Je me permettrai de citer encore quelques remarques de sa compagne d'études qui prouvent combien les étrangetés du caractère de Sophie se développèrent de bonne heure et combien il faut leur attribuer les souffrances et les luttes intérieures dont sa vie fut dévorée. Elle aimait ardemment le succès. Lorsqu'elle se proposait un but, elle faisait tout pour l'atteindre et l'atteignait toujours, sauf dans les questions de sentiment où, chose étrange, elle perdait la clarté de son jugement. Trop exigeante en affection, il semblait qu'elle voulût prendre de force ce qu'on lui aurait volontiers accordé si elle n'y eût pas mis autant de passion. Avec un extrême besoin de tendresse et de confiance, elle rendait toute intimité impossible. Trop agitée, trop peu pondérée, elle aspirait sans cesse à l'intimité et ne pouvait s'en contenter longtemps. Jamais, d'ailleurs, elle ne tenait compte de l'individualité d'autrui. Kovalevski, de son côté, toujours préoccupé de nouveaux plans et de nouvelles idées, avait une nature inquiète et tourmentée. Je doute que ces deux êtres, si richement doués, eussent jamais pu rencontrer le bonheur dans quelques conditions qu'ils se fussent trouvés. Sophie passa 2 semestres à Heidelberg jusqu'à l'automne de 1870. Elle se rendit de là à Berlin pour y continuer ses études sous la direction du professeur Weierstrass. Pendant ce temps, Voldemar avait obtenu le doctorat à Iéna. Sa thèse y attira l'attention générale et le fit connaître comme un travailleur sérieux. 3. Une année d'études chez Weierstrass. Visite à Paris pendant la Commune. Un jour, le professeur Weierstrass vit entrer, non sans surprise, une étudiante qui, d'un air embarrassé, venait le prier de l'admettre au nombre de ses élèves. L'université de Berlin était alors fermée aux femmes, comme elle l'est encore aujourd'hui. Aussi Sophie, désirant ardemment profiter de l'enseignement de celui qui passe pour le père de l'analyse mathématique moderne, prit-elle le parti de lui demander des leçons particulières. Le professeur examina l'étudiante inconnue avec une certaine méfiance, et pour la mettre à l'épreuve, il lui donna des problèmes destinés aux élèves les plus avancés de son cours, persuadés qu'elle ne reviendrait plus. Cette première impression n'avait pas été favorable. Mal habillée, comme elle l'était toujours à cette époque, Sophie vint encore coiffée au hasard d'un affreux chapeau qui lui cachait la figure et lui donnait l'aspect d'une vieille femme. Aussi le professeur, ainsi qu'il me le conta lui-même plus tard, n'eut-il aucun soupçon de cette physionomie vivante et jeune qui, dès le premier abord, exerçait tant d'attrait sur chacun. L'étudiante reparut au bout d'une semaine, disant qu'elle avait résolu les problèmes. Weierstrass en douta, mais l'invita à s'asseoir près de lui et se mit à examiner son travail point par point. À son grand étonnement, tout, non seulement était exact, mais encore finement et ingénieusement compris. Joyeuse de se voir approuvée, Sophie enleva vivement son chapeau. Ses cheveux bouclés s'échappèrent, son visage rougit de plaisir, et le vieux professeur fut ému d'une singulière et paternelle tendresse pour cette femme-enfant dont les facultés égalaient celles de ses meilleurs élèves. À partir de cette heure, le grand mathématicien devint l'ami le plus fidèle, le plus bienveillant, celui dont l'appui ne manqua jamais à Sophie. Elle fut accueillie dans la famille Weierstrass comme une fille ou une sœur. Pendant 4 années consécutives, elle travailla sous la direction du grand professeur, dont l'influence sur elle fut absolue. Les travaux scientifiques de Sophie ne furent même, en quelque sorte, que le complément ou le développement des principes du maître. Les leçons s'organisèrent de la façon suivante. Le professeur venait une fois par semaine chez elle, et le dimanche soir, elle allait chez lui. Kowalewski avait amené sa femme à Berlin et l'y avait installée avec l'ami de Heidelberg. Il venait les voir de temps en temps, mais ses rapports avec Sophie restaient étranges et éveillaient une certaine curiosité dans la maison de Weierstrass, où Woldemar ne se montra jamais, bien que sa femme y vécût dans l'intimité de tous les membres de la famille. Jamais elle ne parla de lui, jamais elle ne le présenta au professeur, mais le dimanche soir, après la leçon, Kowalewski sonnait à la porte d'entrée et disait à la servante qui venait lui ouvrir « Prévenez Madame Kowalewski qu'une voiture l'attend à la porte. » Sophie fut toujours gênée par cette situation, et un des professeurs de Heidelberg m'a raconté qu'ayant un jour rencontré Kowalewski chez elle, Sophie le lui présenta comme un parent. Voici comment l'ami raconte leur vie commune à Berlin. Notre vie à Berlin fut plus monotone encore et plus isolée qu'à Heidelberg. Nous demeurions toutes seules. Sophie passait la journée plongée dans ses papiers, moi je restais au laboratoire jusqu'au soir. Après un dîner pris à la hâte, nous nous remettions au travail. À l'exception du professeur Weierstrass, qui venait souvent, personne ne mettait jamais le pied chez nous. Sonia était de mauvaise humeur, indifférente à tout. Rien en dehors de ses études ne semblait l'intéresser. Les visites de son mari la remontaient un peu, mais bien qu'ils eussent l'air de tenir l'un à l'autre, leur rapport était troublé par des reproches et des malentendus continuels. Ils faisaient ensemble de longues promenades, mais Sophie ne consentait jamais à sortir avec moi, même pour faire les emplettes les plus indispensables. Nous faillîmes une fois nous brouiller au sujet d'une robe dont elle avait absolument besoin pour Noël. Nous étions invités chez Weierstrass, qui faisait orner un arbre, spécialement à notre intention. Sophie ne voulut sortir à aucun prix pour acheter sa robe, je me refusais de mon côté à faire seul cet achat. Son mari aurait tout arrangé s'il avait été là, car il choisissait jusqu'aux étoffes et aux façons de ses robes. Enfin, elle s'avisa de charger notre hôtesse de commander ce qu'il lui fallait, et fut ainsi dispensée de sortir. Elle pouvait passer de longues heures à sa table de travail, dans une tension d'esprit extraordinaire. Et lorsque, après une journée d'études, elle mettait ses papiers de côté et quittait sa table, c'était pour marcher de long en large dans sa chambre, absorbée dans ses pensées et d'un pas si rapide qu'elle finissait souvent par courir en se parlant à haute voix, parfois même en éclatant de rire. Elle paraissait alors comme soulevée de terre, emportée loin de toute réalité, sur les ailes de la fantaisie, mais jamais elle ne parlait des idées qui l'occupaient en pareil cas. Elle dormait peu et toujours d'un sommeil agité. Réveillée parfois en sursaut par quelques rêves fantastiques, elle me priait de lui tenir société et racontait volontiers ses rêves. Ceux-ci étaient toujours curieux ou intéressants et avaient souvent le caractère de vision auquel Sophie attachait une signification prophétique que l'avenir justifiait en général. En résumé, c'était un tempérament d'une excessive nervosité. L'esprit toujours agité, elle aspirait sans cesse à quelques buts compliqués, et jamais cependant je ne l'ai vue plus découragée que lorsque son but était atteint, car jamais la réalité ne répondait à ce qu'elle en avait attendu. Quoiqu'elle fût peu aimable, tant que son idée la préoccupait, on s'attendrissait involontairement sur elle en la voyant si malheureuse en plein succès. Cette mobilité même, ce continuel passage d'une impression joyeuse à une impression sombre, la rendait intéressante et profondément sympathique. Notre séjour à Berlin fut dans son ensemble sans aucun agrément. Mal logé, mal nourri, privé d'air et de distraction, surmené de travail, je pensais à Heidelberg comme à un paradis perdu. Aussi Sophie, après avoir obtenu le grade de docteur dans l'automne de 1874, se trouva-t-elle si épuisée de corps et d'esprit qu'après être rentrée en Russie, elle resta longtemps incapable de tout travail intellectuel. Cette absence de joie dans le travail, dont parle ici son ami, fut pour Sophie une souffrance attachée au travail scientifique. Elle s'y livrait avec trop d'excès et en perdait la faculté de jouir de la vie, même au point de vue de ses travaux. Ses pensées devenaient des tyrans au lieu de rester des serviteurs, et la joie de produire, de créer, disparaissait entièrement. Ce fut tout le contraire lorsqu'elle s'occupa plus tard de littérature. Alors elle s'épanouissait et se sentait heureuse. Le surmenage ne fut pas seul à rendre le séjour de Berlin pénible. D'autres circonstances y contribuèrent, particulièrement l'étrangeté des rapports de Sophie avec son mari et la fausseté d'une situation que l'intervention des parents rendit plus pénible encore. Ceux-ci vinrent à plusieurs reprises voir leur fille, l'emmenèrent même en Russie pendant les vacances et pénétrèrent la vérité. Ils firent des remontrances, mais n'obtinrent aucune modification à l'attitude de Sophie envers Voldemar. Elle souffrait cependant de sa solitude, car elle éprouvait déjà ce besoin passionné de vivre qui la dévora plus tard. Elle n'avait rien d'une pédante, comme son genre de fille aurait pu le faire supposer. C'était une femme timide, absolument dépourvue d'esprit pratique, sentant l'équivoque de sa situation et craignant de se compromettre. Ce manque d'esprit pratique compliqua beaucoup la vie matérielle des deux amies. Elles avaient le don de choisir les plus mauvais logements, de prendre les domestiques les plus suspects et de se nourrir de la façon la plus malsaine. Elles tombèrent même une fois entre les mains d'une véritable bande de voleurs qui les exploita systématiquement. Malgré leur inexpérience, elles découvrirent un jour que leur servante les volait et lui en firent des reproches. Cette fille devint si insolente qu'il fallut la mettre à la porte. Le même soir, Sophie et son amie, ne sachant comment arranger leur lit pour la nuit, entendirent frapper à la fenêtre. Elles demeuraient au rez-de-chaussée. Étonnées, elles regardèrent et aperçurent derrière la vitre un visage de femme inconnue. Cette femme, interrogée par elles, demanda la permission d'entrer à leur service. Et telle était leur incapacité, leur ignorance totale des choses de la vie, qu'elles acceptèrent cette proposition, bien qu'elle leur fît peur et n'eût rien d'engageant. Cette femme plus tard les terrorisa et les vola à tel point qu'elles furent obligées de recourir à la police pour s'en débarrasser. Il fallait des crises semblables pour que Sophie s'aperçût de certains inconvénients. Son indifférence pour les aises de la vie était extrême et elle ne remarquait jamais si sa nourriture était mauvaise, sa chambre mal tenue et ses robes déchirées. En janvier 1871, Sophie avait dû interrompre ses études, à peine commencées avec Weierstrass, pour entreprendre, en compagnie de son mari, un voyage aventureux. Agnota s'était vite lassée de la vie monotone de Heidelberg et, sans demander l'autorisation de ses parents, s'était rendue à Paris où elle comptait perfectionner son talent d'écrivain. Elle ne trouvait aucun avantage à vivre enfermée dans une chambre d'étudiant avec Sophie, voulait étudier la société, les théâtres, le mouvement littéraire dans un grand centre, et, une fois échappé à la tutelle de sa famille, chercha hardiment à se frayer une voie personnelle. N'osant avouer toutefois qu'elle vivait seule à Paris, elle fit passer ses lettres pour la Russie par l'intermédiaire de Sonia afin de les timbrer du même endroit. L'intention d'Aniuta n'était pas de prolonger son séjour à Paris. Elle se rassurait par la pensée d'avouer tout à son père de vive voix. Mais des relations qu'elle y noua la dominèrent bientôt entièrement, et la vérité devint chaque jour plus difficile à dire. Elle avait fait la connaissance d'un jeune Français qui fut un des chefs de la commune, et pendant toute la durée du siège, se trouva enfermée avec lui à Paris. Sophie, très tourmentée, comprenant d'ailleurs la responsabilité qui pesait sur elle-même, résolut de pénétrer avec son mari dans Paris, aussitôt après le siège, pour y retrouver sa sœur. Lorsqu'elle me raconta plus tard ce voyage, elle avait peine à expliquer comment ils avaient pu parvenir à pénétrer dans la ville au travers des troupes allemandes. Errant à pied le long de la Seine, ils avaient trouvé un bateau abandonné près du bord et s'en étaient emparés. Mais à peine éloignés du rivage de quelques brasses, une sentinelle les aperçut et les héla. Au lieu de répondre, ils ramèrent de toute leur force et, grâce à je ne sais quelle négligence de service, réussirent à échapper et à débarquer sur la rive opposée, d'où ils se glissèrent dans la ville sans attirer l'attention. C'est ainsi qu'ils se trouvèrent à Paris, au début de la Commune. Sophie avait l'intention de décrire ses impressions sur cette époque dans un roman intitulé « Les sœurs Rajewski pendant la Commune ». Ce projet, comme tant d'autres, descendit avec elle dans la tombe. Elle voulait raconter une nuit dans une ambulance où sa sœur et elle firent le service des blessés avec des jeunes filles rencontrées jadis à Pétersbourg et qu'elles retrouvèrent là. Pendant que les bombes éclataient de toutes parts, que de nouveaux blessés arrivaient sans cesse, les jeunes filles causaient à voix basse de leur vie passée, si différente de cette heure présente qui leur semblait tenir du rêve. N'était-ce pas vraiment un rêve, une espèce de féerie pour Sophie, que l'étrange situation où elle se trouvait? À son âge, les phénomènes bizarres, les péripéties émouvantes dont elle était témoin, lui produisaient l'effet d'un roman à sensation. Les bombes tombaient autour d'elle sans lui causer aucune frayeur. Au contraire, son cœur battait de joie à l'idée de vivre en plein drame, en pleine histoire. Quant à sa sœur, elle ne pouvait l'aider en rien. Aniuta se passionnait pour les agitations politiques et ne demandait qu'à risquer sa vie à côté de l'homme auquel sa destinée était liée. Les Kovalevski retournèrent donc à Berlin, où Sophie reprit le cours de ses études. Mais lorsque la Commune fut vaincue, Aniuta écrivit à sa sœur pour la supplier de revenir et d'intervenir auprès de leur père afin d'obtenir son pardon et son secours dans la situation désespérée où elle se trouvait. J venait d'être arrêté et condamné à mort. Si l'on n'a pas oublié le portrait du général Krukovski tel que le décrit Sophie dans Les souvenirs d'enfance, on peut se figurer le coup terrible que lui porta la cruelle vérité. Se savoir trompé par ses enfants, apprendre la façon dont sa fille aînée avait disposé de son sort, quelle blessure pour son cœur et pour ses principes. Il avait dit autrefois à Aniuta, en découvrant qu'elle vendait secrètement ses romans, « Aujourd'hui tu vends ta plume, je vois le jour où tu te vendras toi-même. » Et cependant, chose étrange, maintenant qu'elle lui causait une peine beaucoup plus grave, il se résigna avec douceur. Sa femme et lui partirent aussitôt pour Paris, accompagnés de Sophie et de son mari. Le général se montra plein de bonté et d'indulgence pour sa fille coupable. Ses enfants lui en gardèrent une profonde reconnaissance, car ils s'attendaient à un traitement sévère qu'ils sentaient mérité. Leur attachement pour leur père s'en accrut et devint plus tendre. Je n'ai pu recueillir sur cette époque que quelques anecdotes. Le général s'adressa à M. Thiers, avec lequel il avait des relations, afin d'obtenir la liberté de son futur gendre. M. Thiers prétendit ne pouvoir remédier à la situation. Mais dans le courant de la conversation, il raconta, comme par hasard, que les prisonniers, au nombre desquels se trouvait J, seraient transférés le lendemain dans un autre lieu de détention et qu'ils passeraient devant le palais de l'Industrie. De fréquents rassemblements se formaient à cette époque autour de cet édifice. Aniuta se mêla à la foule, et au moment où les prisonniers passaient, elle se glissa parmi les soldats de l'escorte, s'empara du bras de J et l'entraîna dans une des annexes de l'exposition, d'où ils sortirent par une autre porte et parvinrent sans encombre jusqu'à une gare. L'aventure paraît étrange et presque invraisemblable, mais je la raconte telle qu'elle est restée dans mon souvenir et dans celui de quelques amis de Sophie. Combien amèrement on regrette le peu d'importance attachée à des paroles qu'on aurait dû graver dans sa mémoire. Pour ma part, je me le reproche d'autant plus vivement que Sophie me disait souvent « Tu écriras ma biographie quand je serai morte. » Mais qui songe au jour de la séparation pendant une intime causerie? Il semble qu'on remplira dès le lendemain les lacunes de certains entretiens trop animés pour ne pas voler rapidement d'un sujet à un autre. Sophie reçut en 1874 le grade de docteur à Göttingen à la suite de deux dissertations écrites sous la direction de Weierstrass et dont l'une sur la théorie des équations aux différences partielles qui lui servit de thèse peut compter parmi ses travaux les plus remarquables. Ce travail la dispensa de subir l'examen oral. Dans la lettre suivante, adressée au doyen de la faculté de Göttingen, elle explique les motifs très caractéristiques qui lui font demander une dispense que l'on n'accorde que rarement. « Votre honneur voudra bien me permettre d'ajouter quelques mots à ma pétition pour solliciter le grade de docteur. Je ne me suis pas décidé sans peine à sortir de ma réserve habituelle et je ne surmonte mes hésitations que pour satisfaire des personnes qui me touchent de près et leur prouver que mes études de mathématiques ne sont pas restées sans résultat. On m'a d'ailleurs assuré qu'en ma qualité d'étrangère, je pouvais être gradé in absentia si mon travail paraissait suffisant et si j'apportais des certificats de personnes compétentes. Votre honneur ne se méprendra pas, j'espère, sur la franchise de mon aveu, mais je crois ne pas avoir l'assurance nécessaire sur l'examen rigorosum. Je crains fort que l'obligation de répondre à des personnes étrangères, quelle que soit la bienveillance de messieurs les examinateurs, ne me trouble complètement. À cette crainte se joint encore la connaissance incomplète de la langue allemande. Bien que je sois habitué à m'en servir en mathématiques, lorsque j'ai le temps de la réflexion, je ne la parle pas couramment. Je n'ai commencé à étudier cette langue qu'il y a 5 ans, et pendant les 4 années passées par moi à Berlin, je n'ai parlé allemand que pendant les heures que m'a consacré mon vénéré maître. J'ose espérer que votre honneur voudra bien tenir compte de ces raisons et m'exempter de l'examen rigorosum. La valeur des dissertations jointes à cette pétition et les excellentes recommandations qui lui furent données valurent à Sophie la faveur très rare d'être reçue docteur sans se présenter en personne. Peu après, toute la famille Krukowski se trouva réunie à Palibino, le vieux nid de la famille.